Oui, donc bonjour à tous, mon nom est Philippe Lecomte et comme l'a dit Sylvie, je travaille donc au CIRAD. Je suis belge d'origine, accueilli de longue date par la France et qui m'a un jour proposé à mon plus grand bonheur d'être accueilli au Sénégal. Donc depuis 3 ans, là, je suis hébergé au pôle pastoralisme zone sèche, une unité mixte de recherche là, qui agrège différentes institutions locales. Ça, c'est les stratégies effectivement du CIRAD, c'est de travailler en grand partenariat avec des institutions africaines. Et là, on travaille entre autres avec l'ISRA, bien évidemment, avec l'UCAD et le CSE. Et Sylvie me proposait, et je le ferai en français pour respect pour la langue et pour, selon la proposition aussi de notre président de séance, d'illustrer par quelques exemples des travaux vraiment africains et qui est trait à ce sujet-là de l'élevage, de l'agriculture et du changement climatique et de toutes ces questions-là qui ont été abordées au cours de la matinée. Je ne vais pas revenir sur les challenges qui ont déjà été largement détaillés, mais enfin j'entendais encore ou je lisais sur le Time là, il y a quelques jours que l'on prévoit le doublement de la population de l'Afrique, ce qui est quelque chose quand même d'extraordinaire en termes de nombre de populations. C'est bien évident là derrière qu'il va y avoir un enjeu énorme à accroître la production agricole et que la question n'est pas tellement de limiter la production pour limiter des émissions. Mais tout le monde s'empare également à travers le monde de la nécessité de s'adapter au changement climatique, c'est une chose, mais aussi à tous les changements en cours, dont des changements démographiques, des changements économiques, la globalisation, tout cela sont des éléments de changement auxquels l'Afrique se trouve confrontée. Et puis il y a également cette question incontournable de la mitigation, donc de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre qu'il faut d'une manière ou d'une autre concevoir, quoi. Alors on a tous été éduqués, plus ou moins, dans le monde agronomique, et en tout cas pour les gens de ma génération, moi j'ai été éduqué à l'efficacité. On nous enseignait de rechercher la performance envers et contre tout, et à la limite, on dirait presque, peu importe les moyens, quoi, hein, faire des vaches qui vont produire 10 000 litres de lait, ou je voyais du riz qui fait 15 tonnes de riz à l'hectare. Quel que soit le système de culture, pour vous qu'on y arrive, c'était ça le goal il y a 20 ans. Et c'est vrai que l'agriculture a largement été poussée, en tout cas la recherche, dans cette voie. Ce que l'on voit dans la langue anglaise, surtout peut-être qu'en français ça n'a pas autant de sens, c'est ce terme d'efficience qui émerge et qui, quelque part, amène à porter un regard, ok, sur un objectif, mais surtout sur l'usage que l'on fait des ressources et la manière dont on va, en même temps que l'on produit, consommer plus ou moins d'énergie ou de ressources non renouvelables, émettre plus ou moins de produits. Cela complexifie bien évidemment les questions et ça ne les rend pas toujours faciles à faire comprendre aux populations vers lesquelles on s'adresse. C'est un peu l'image là du cartoon. Mais vous avez aussi compris qu'à travers les grands flagships là, que met en avant les étendards que pousse en avant la GRA, on peut imaginer effectivement qu'il y a des enjeux à, comme l'a dit Sylvie, là, contextualiser peut-être un peu plus dans le futur la place de l'Afrique et le rôle qu'elle peut avoir vis-à-vis de ces questions-là d'adaptation et de mitigation des gaz à effet de serre. Alors, je vais partir d'abord d'un exemple qui s'inspire de ce qu'on a vu ce matin dans l'exposé là de Eden et où vous voyez dans ce schéma où Eden nous expliquait ce matin là que quand on est peu efficient en termes de production, on a effectivement des gains, on émet beaucoup et on émet beaucoup par litre de lait. Bon, il le présentait sous forme d'une courbe là qui montre que l'on peut progresser, que l'on peut s'améliorer en faisant un petit peu comme ce qui se ferait aux États-Unis. Une autre illustration qui circule dans la documentation scientifique ou qui va vers les médias et dont j'ai vu les médias s'emparer, c'est quelque part cette image qui place au centre l'Afrique subsaharienne comme étant la moins performante et la plus inefficiente en termes de production laitière et où on vous dit qu'une vache africaine va émettre 9 kg de CO2 par kilo de lait qu'elle va produire. Et vous comprenez tous aussi la perplexité que peut avoir Rama, la laitière là, que vous voyez occupée à traire sa vache. C'est la femme de mon ami Tidiane dans le village de Richard Toll et qui se dit, mais comment avec ma vache qui de toute façon ne fera jamais que 1 à 2 litres de lait par jour, je pourrais imaginer d'accroître ma production pour être plus efficient. Ça, c'est bien une question que l'on peut adresser effectivement à la recherche, parce que ça ne tombe pas sous le sens de comprendre comment ont été calculés ces éléments-là de l'histogramme. En fait, quand on a pu revisiter ici au Sénégal, en s'appuyant sur le système de recherche sénégalais, sur des bases de données qu'ils avaient conservées très soigneusement, en collaborant, on a pu comme ça faire la démonstration, par exemple ici, de la barre du haut que vous voyez, la barre transversale, montre ce que l'IPCC, quand il calcule ce qu'une vache va ingérer tous les jours et qui va émettre du méthane, considère qu'une vache, ça va manger 6 kg de matière sèche. Quand on observe à travers des méthodologies, je ne vais pas détailler ce que réellement l'animal mange tous les jours au pâturage, ça vous tombe sous le sens, bien évidemment, qu'il y a des saisons humides pendant lesquelles il y a abondance de ressources et d'autres périodes de saison sèche où vraiment les animaux n'ont pas grand-chose, pour ne pas dire plus rien à manger. C'est le sens de la courbe dont on voit qu'elle alterne et monte et descend. Quand on prend cette représentation et que là-dessus on modélise en fonction de la digestibilité quelle est l'émission que vont avoir chaque jour les animaux et puis qu'on en fait le total à l'échelle de l'année, vous voyez qu'une vache à Kolda, au Sénégal, par exemple, va émettre 26,6 kg de méthane. Dans le même temps, le rapport IPCC, qui lui travaille avec ce que la science connaît, puisqu'on ne connaît pas trop ce qui existe en Afrique, on ne connaissait pas trop, va estimer la même émission à 46 kg. Si vous retournez au graphique précédent, vous comprenez que la vache de Rama, ce n'est pas 9 kg qu'elle émet, mais c'est plutôt 6. Et donc tout ça incite à penser que d'abord il y a vraiment de la science et des données de qualité à produire sur l'Afrique et puis que ça peut être un élément aussi de plaidoyer dans le futur pour dire aidez-nous à aller plus loin, mais partons d'abord des chiffres exacts et de l'identité ou de la situation réelle telle qu'elle se passe en Afrique. Voilà une première illustration de travaux qui se font ici, dans la région, et qui sont conduits par la recherche africaine, ou en tout cas ouest-africaine. Une autre évocation que m'a inspiré la présentation que fait GRA, c'est bien évidemment cette structuration assez classique en livestock d'un côté, cropland ensuite, et puis on fait un champ qui va être plutôt intégratif. Et c'est vrai que quand vous regardez les logiques mondiales, bon, l'élevage est toujours une activité bien à part, l'agriculture en est une autre bien à part, et on conçoit, oui, qu'il y a des relations entre l'un et l'autre, mais toujours de manière un petit peu distante. C'est vrai que quand on vit en Afrique et qu'on est africain, ben, la majorité ou l'essentiel de l'élevage est intégré ou a des relations très fortes avec l'agriculture, en consommant les résidus de culture, en amenant de la fertilisation. C'est ce qui est représenté là dans ce schéma qui avait été établi par un chercheur là des PASAP au Burkina Faso. Et le propos ici de la DIA, c'est quelque part de montrer comment dans un travail tout à fait récent qui a été fait en collaboration avec GRA et FAO, qui étaient partenaires d'une institution qui s'appelle le Clean Climate Air Coalition, qui est un grand fonds mondial qui donne un peu d'argent là, pour aider à rendre l'air plus propre et à, en tout cas, faire que l'atmosphère soit plus saine. Dans ce travail, à la fois le Sénégal, le Mali, le Niger, le Burkina, le Bénin, ont collaboré là à produire un premier rapport qui est une évaluation, une expertise de recherche sur les différentes possibilités qui permettraient dans le futur là de revisiter en tout cas bon, les productions fourragères, le fait d'utiliser de l'ensilage, de faire du foin, ou de mieux utiliser en tout cas les manures, parce qu'il faut savoir, par exemple, dans le schéma qui est représenté là-haut avec cette vache, si vous faites un calcul sur les quantités de carbone et d'azote qui sont perdues entre le moment où la vache va rejeter dans le milieu une partie du carbone et de l'azote qu'elle a ingéré, et puis le fait que la plante va l'utiliser à l'autre bout, à peine 20% de ces éléments vont arriver. Le reste, ça va être émis, et quand Hayden évoquait là le fait des pertes en N2O vers l'atmosphère et l'effet de serre que cela peut avoir, c'est effectivement des problématiques sur lesquelles il y aurait tout intérêt à travailler dans le futur. avec un double bénéfice, bien évidemment, qui serait d'une part de réduire l'inefficience que peuvent avoir des systèmes élevage et agriculture, et d'autre part de combler quelque part ce trou alimentaire là que l'on voit systématiquement d'année en année et qui limite la production, bien évidemment, des animaux. On vient d'évoquer là, la question là, du 4 pour 1000, et effectivement, quand on regarde cette problématique et l'idée générale que si tous les pays de la planète se mettaient à stocker chaque année 4 pour 1000 de carbone en plus dans leur sol, de leur culture ou de leur prairie ou d'ailleurs, on comblerait avec ça, c'est la théorie du 4 pour 1000, on compenserait la quasi-totalité des émissions actuelles de la planète. C'est donc ça un projet qui a un enjeu, ou en tout cas une image tout à fait intéressante, et dans laquelle, bien évidemment, quand on regarde l'ensemble de l'Afrique, on se dit, mais ça, c'est quand même un continent dans lequel il y a des disponibilités en terre qui sont gigantesques, et sur lesquelles, moyennant un certain nombre de pratiques adaptées, on pourrait d'année en année là, stocker un peu plus de carbone et ce faisant accéder probablement dans le futur à des formes de crédit qui d'une manière ou d'une autre vont finir par s'y installer. Après, ça pose bien évidemment des sacrées difficultés dans la façon dont on va pouvoir mesurer ça, comment on va mesurer dans l'espace et dans le temps des accroissements de stocks de carbone. Comment va-t-on, si on imagine de rétribuer, faire des schémas de paiement qui vont faire en sorte que ça n'aille pas dans la poche des moins intéressants et plutôt dans celles qui seraient les plus intéressées, qui sont les éleveurs ou les agriculteurs en bout de chaîne? Et comment fait-on, par exemple, si l'on considère les immensités pastorales dans lesquelles on peut stocker un tout petit peu de carbone chaque année, mais qui, multiplié par les millions et les millions d'hectares qui existent, pourrait amener à du revenu complémentaire pour des pasteurs mobiles? Voilà un questionnement là pour le futur, qui est bien celui dans lequel la GRA souhaite rentrer là dans le futur, et sur lequel, bon, on a aussi récemment, là, à travers un travail qui a été réalisé par un Béninois qui travaillait en collaborant étroitement avec l'ISRA et l'unité IESOL, là, ici dans la zone sahélienne, a réalisé pendant 3 années de thèse un travail tout à fait original qui consiste à vouloir faire le bilan carbone d'un forage. Un forage, vous imaginez, c'est dans le Sahel, il y en a tous les 30 km. On peut donc définir une zone de 15 km de rayon autour de ce forage. Ça fait 70 000 hectares, 20 000 têtes, 20 000 bovins, enfin 20 000 unités de bétail qui croisent tout ce, qui utilisent les ressources dans cet environnement. Ça, c'est au plus haut de la saison des pluies. Quand la période pastorale et des transhumances arrivent, ben ça va diminuer à peu près de moitié. Et quand on veut réaliser un tel bilan carbone, eh ben on doit prendre en compte toutes les composantes qui sont à la fois le sol, la végétation, les étangs et les mares qui existent à certaines périodes et faire des mesures de manière un peu analogue à ce qui se fait dans le riz. Et le constat, au bout de ce travail qui est tout à fait original et qui commence à faire un peu de bruit parce que aucune donnée n'existe jusqu'à présent, c'est quand même qu'au bout du compte, eh ben on voit qu'on a un sol qui est légèrement négatif, c'est-à-dire que même des zones aussi arides et aussi pauvres, et où il ne pousse pas grand-chose a priori, stockeraient une toute petite quantité de carbone, et que moyennant quelques pratiques, on pourrait améliorer cela encore dans le futur. Un dernier exemple, c'est l'idée aussi de progresser dans l'avenir là, en installant ce qu'on va appeler des tours à flux. Vous avez sans doute entendu parler de ça. Ce sont des appareils qui en permanence vont contrôler dans l'air la teneur qu'il y a à la fois en CO2 et en méthane et permettre de faire un bilan annuel qui va faire là, sur un large territoire, une balance globale, quoi. CIRAD a quelques dispositifs de ce type en Amérique du Sud, il y en a également en Thaïlande, il y en a un qui est actuellement au Congo sur une forêt, sur une zone de plantation forestière. Et l'intention est, en partenariat avec l'IRD et surtout avec l'ISRA, de monter là une tour dans une zone agro-pastorale, agro-silvopastorale, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des arbres, de la culture assez intense, et puis également des animaux qui circulent, et d'adresser la complexité de ces systèmes qui sont assez uniques au monde. On ne retrouve pas ça dans les autres pays, tout est toujours séparé. Là, il y a une opportunité tout à fait intéressante qui existe déjà et qui aurait bien évidemment tout intérêt à pouvoir rejoindre un dispositif comme la GRA. Voilà quelques exemples, et je ne suis pas du tout exhaustif parce que je pourrais comme ça, le sujet me passionnant tellement, vous parler pendant près d'une heure de choses dont je sais qu'elles existent, par exemple sur les feux là, en République du Congo et des ranchs qui, ou des élevages de grande dimension qui en permanence utilisent le feu pour faire croître les animaux et sur lesquels on peut montrer comment une alternative de pâturage amélioré peut améliorer très fortement l'efficience. D'autres exemples sur l'intérêt que l'on peut porter à la microflore du rumen qu'il y a dans des bovins au Sahel et qui en permanence passe par des régimes alimentaires qui n'ont rien à voir avec ce que la science zootechnique connaît classiquement dans les pays entre guillemets dits développés. Là, il y a beaucoup de travaux là, qui, effectivement, pourraient être cités et mis au pot. Et vous comprenez aussi, à travers ces quelques évocations, combien tout cela sont des choses qui sont assez récentes et combien il y a de grands besoins de recherche complémentaires pour compléter, étoffer tout ça, l'étayer, le montrer que ça existe dans différents pays et mieux contextualiser, surtout d'abord et avant tout, cette dimension-là d'inventaire, c'est-à-dire que chaque pays doit faire l'inventaire de son bilan carbone. Il y a bien évidemment intérêt à ce que ce bilan soit fait d'une manière qui soit appropriée au pays, pas avec des normes qui viennent de l'extérieur et que l'on subirait par défaut. À travers les quelques exemples aussi, je pense que vous avez pu percevoir la multiplicité des échelles auxquelles on doit s'adresser, ce qui effectivement rend les choses complexes et montre que la recherche, c'est quand même pas quelque chose de simple et qu'il y en a pour tout le monde là-dedans. Il y en a pour les gens qui travaillent directement sur la plante ou sur le champ ou à l'échelle de l'exploitation ou du côté zootechnique, c'est l'intérieur de l'animal lui-même ou le troupeau ou l'ensemble de la ferme que l'éleveur a à conduire. Et puis au-delà de ça, bien évidemment, de pouvoir monter alors à des dimensions beaucoup plus larges, plutôt que de travailler sur une ferme de 1 ou 2 hectares, de pouvoir adresser des grandes zones, des grandes régions, voire des pays, et que le chiffre au bout est celui qui va être clé dans la manière de négocier ensuite des ajustements ou de montrer ou de prouver, de démontrer en tout cas que l'on a eu un bilan qui est positif au cours du temps, quoi. Enfin, une dernière réflexion, c'est peut-être aussi de partir aussi de ce constat initial qui était que voilà, toute l'Afrique subsaharienne, c'est pas très efficient, par exemple, dans la production laitière. Bon, on peut le prendre comme une critique un peu négative et le subir, ou au contraire, le regarder comme une opportunité. Parce qu'il faut quand même bien se rendre compte que ceux qui sont très efficients, chaque dollar que vous allez vouloir investir dans le futur pour les rendre plus efficients va rapporter très très peu parce que le gain d'efficience il est quasi nul ou marginal lorsqu'on est à un niveau très élevé. Une vache qui fait 10 000 litres, elle va pas doubler sa production, quoi. À l'inverse, dans des systèmes qui sont effectivement peu productifs ou relativement peu efficients, les marges sont très peu coûteuses. On peut gagner beaucoup en investissant peu, et ça peut être un argument bien évidemment très important à défendre dans le futur. Tout cela pour conclure sur effectivement l'intérêt qu'il y a, et là je reprendrai un peu le proverbe bantou que j'ai appris de mes amis congolais il y a bien longtemps en commençant ma carrière dans ces zones, et qui est qu'un seul doigt de la main ne peut pas laver toute la figure, et que donc c'est bien en y allant ensemble et en cultivant les valeurs de solidarité que l'on connaît en Afrique que l'on peut imaginer effectivement de faire en sorte que dans un panel comme la GRA où son représenter pas mal de nations de la planète, là on voit apparaître le continent de manière tout à fait notoire, opportune et avisée. Voilà, merci beaucoup.